Bonsoir. Je vais vous présenter cette table ronde qui a pour thème les modèles économiques autour du logiciel libre et surtout les possibilités de coopération entre entreprises. Alors pour cela, nous avons à partir de la droite Monsieur Olivier Kayrol de
Dimensio. Mais c'est la même société.
Ah, pardonnez-moi, de Logilab. Ensuite, M. Christophe Boutet, qui a une double casquette, c'est-à-dire c'est d'une part une CF2L qui s'appelle Entrouvert, et par ailleurs, il est membre d'un réseau d'entreprises qui s'appelle Libre Entreprise. Ensuite, Christophe Lebar, qui est vice-président de l'April, chargé des relations avec les entreprises. Et puis au final, Jamie Hare, qui est directeur marketing, je crois, de la société Adaccord. Alors, il y a eu beaucoup de débats. J'entendais encore récemment que des gens pensaient que les personnes qui travaillent dans l'open source vivent d'amour et d'eau fraîche. Alors, on sait tous que ce n'est pas exactement ça. Mais c'est intéressant de voir qu'il y a différents modèles, outre celui de la SS2 que tout le monde connaît un petit peu, c'est-à-dire la licence est gratuite, mais on vend le service. Il y a des activités d'éditeur et même de plus en plus. Donc, je voulais savoir un petit peu, peut-être en commençant par vous, Monsieur Hare, sur votre domaine, comment ça se présente le...
Ok, donc tout d'abord, nous faisons le côté développement d'un logiciel pour aider à développer les applications dans le langage ADA. Mais à côté de ça, et peut-être plus important, est le côté support et expertise dans ce langage. Donc vous avez en fait les deux côtés, un côté technique et logiciel et l'autre côté qui est expertise dans le langage ADA et le logiciel GNAT.
Okay. Mais comment dire, est-ce que ça suffit? Dire par là que c'est une activité presque de société de service, en fait, la vente d'expertise.
Pas vraiment, parce que c'est intéressant, parce qu'il faut savoir que, je pense que vous êtes tous au courant, mais le marché de l'ADA est quand même un marché assez niche, c'est-à-dire utilisé dans beaucoup de systèmes très critiques où la vie humaine est en jeu, donc dans l'avionique, dans ce qui est médical, dans le militaire également. Et en fait, pour développer ce marché, il fallait créer une technologie qui soit le plus performant et le plus robuste et costaud possible pour répondre à aux besoins de nos clients. À côté de ça, il fallait également continuellement adapter nos processus de développement pour qu'il soit le plus proche de besoins de nos clients. Donc, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de plateformes, il y a des nouvelles processeurs qui sont utilisés, il y a des nouvelles plateformes qui sont introduites, genre Linux, les jours des vieux Unix sont finis, mais on avance bien. Et donc, de ce côté-là, c'est vraiment un rôle d'éditeur. Par contre, ça intègre le côté logiciel libre dans le fait que tous nos produits sont distribués sous la GPL et la communauté ADA aide et suggère des changements que nous adoptons dans la technologie et que nous, après, mettons à disponibilité de la communauté entière. De l'autre côté, vous avez tout à fait raison, il y a le côté SS2L dans le fait où nous n'apportons pas véritablement une solution de A à Z. C'est-à-dire on ne va pas aller dire à Boeing, voilà votre système d'ouverture de porte dans le 787, on va vous le faire. Par contre, on va vous aider à le faire parce que nous avons cette expertise.
D'accord. Je vais poser la question à Monsieur Boutet. Alors vous êtes plus dans un domaine assez spécifique qui est celui de l'administration électronique, du système de vote. Est-ce que les choses sont de la même manière? Parce que j'ai l'impression que là, on avait affaire à une communauté quand même assez, comme Monsieur Hare l'a dit, de niche. Là, c'est moins de niche quand même.
Alors, je vais plutôt parler pour les parties entrouvertes. Nous, on est spécialisé dans la gestion d'identité en Liberty Alliance, qui est un marché vraiment de niche aussi. où en fait il y a peu d'acteurs, les gros déploiements, comment arriver et fédérer une communauté autour d'un logiciel. Donc nous on a un rôle effectivement qui est d'éditeur, avec parfois des donc en ouvrant le plus possible et en ayant à chaque fois le souci de penser nos projets au-delà de la licence comme des projets libres, donc avec un code qui soit ouvert, accessible, avec en distribuant des produits qui sont plutôt packagés et accessibles. Malgré tout ça, on a donc une activité qui est une activité de SS2L, où on apporte du support, du conseil et d'expertise en la matière. Avec parfois, donc sur le modèle économique, des gens qui ont du mal à faire le distinguo entre ce qui relève du gratuit ou du communautaire, ou donc qui doit être posté sur une liste, ou d'autres, on citait tout à l'heure le cas de sociétés, qui ont tendance à s'adresser directement aux développeurs pour avoir des réponses à des problèmes sans vouloir en faire profiter tout le monde et en pensant que ça relève du gratuit. Donc il y a encore des gens qui ont du mal à savoir où s'arrête la partie logiciel libre, support communautaire, d'un support gratuit à façon pour une société qui, là, n'en relève pas forcément.
En fait, c'est une activité de service, je dirais, traditionnelle. Si on met de côté la partie libre, vous vendez votre savoir-faire à des clients.
On vend notre savoir-faire à des clients, comme à peu près toutes les S2L, oui, bien sûr.
D'accord.
Et en revanche, on édite également un logiciel. Donc ça, on a besoin de le supporter, de le faire vivre. Donc on édite en libre. Ça a un coût, évidemment, qu'on prend en charge ou qu'on répercute.
D'accord. Mais on peut observer, par exemple, que depuis... je ne sais pas dire combien de temps exactement, mais depuis un certain temps, pas mal de SS2L qui se voulaient généralistes plutôt, capables d'intervenir sur plusieurs domaines d'activité, sont en train de se spécialiser. Alors, je ne sais pas trop à qui poser la question, peut-être M. Lebar, est-ce que vous constatez aussi cette évolution et comment vous l'expliquez ?
Non, ce que je vois dans les deux interventions, là, ce qui est intéressant, c'est de voir justement comment, avec le monde du logiciel libre, le modèle éditeur et le modèle société de service, la frontière entre les deux devient un petit peu floue. C'est-à-dire qu'on a un petit peu un mélange des deux et il n'y a pas vraiment deux catégories séparées. C'est plutôt sur entre les deux pôles, complètement société de service et complètement éditeur, vous allez avoir tout un tas d'acteurs qui vont se positionner l'un à très près du modèle d'éditeur pur, l'autre très près du modèle de société de service pur, mais avec des variations infinies, autant qu'il y ait position entre ces deux points extrêmes. Et alors, je n'ai peut-être pas répondu à la question tout à fait, mais...
C'est pas grave, j'étais sûr que vous aviez...
C'était quoi la question ?
Il semble qu'il y ait une forme de tentation de la spécialisation un petit peu dans les SS2L, autour d'une solution sur laquelle... Ils ont une forme de maîtrise,
oui.
Soit par des contributeurs, soit par...
J'entendais avec beaucoup d'intérêt ce que disait Steria tout à l'heure et le débat qu'ils ont eu avec Alcove, expliquant qu'effectivement, qu'aujourd'hui, c'est aussi dans l'enquête de 01, on voit un petit peu que les SS2I traditionnels prennent une part de marché significative quand même, du marché de services logiciels libres, qu'on peut qualifier comme tel, c'est-à-dire que où on a des technologies identifiées comme étant des technologies logiciels libres et des clients qui demandent du service sur ces technologies-là. Si une part significative du marché est prise par ces acteurs traditionnels, des gros acteurs qui ont déjà une force commerciale très importante, il est évident que la seule... façon de se différencier pour les acteurs historiques, SS2L ou éditeurs de logiciels libres, c'est d'avoir une forme d'expertise, un savoir-faire plus important sur telle ou telle technologie. Et donc, effectivement, cette dérive, ça peut être vers une marché de niche ou une spécialisation.
D'accord. Mais alors, où ça mène ? Parce que ça veut dire que pratiquement, on va avoir... Bon, d'abord, il y a un risque de morcellisation aussi. Enfin, du fait que, par exemple, plusieurs sociétés peuvent avoir des expertises comparables, donc avoir tendance à essayer de voir chacune leur projet, et donc une multiplication de projets qui font la même chose. Est-ce que vous ne pensez pas que ça peut être un danger, éventuellement ?
Sur la balkanisation des projets, je ne suis pas sûr. Si on prend des projets type CMS, où il y a des sociétés qui sont quand même spécialisées sur un certain nombre de choses... On a peut-être 2 ou 3 000 CMS à l'heure actuelle. Il y a des sociétés qui ont fait leur cheval de bataille de telle ou telle solution. Pour autant, je ne pense pas qu'il y ait une balkanisation des solutions. Après, sur un chef d'éditeur, investir dans une solution ou développer une solution complètement comme ce que nous on a fait dans l'asso et son environnement, c'est des coûts de recherche et développement qui sont lourds et très très importants. Il faut avoir soit une taille critique, soit la foi, soit être prêt d'une manière ou d'une autre à impacter ces coûts-là parce qu'à un moment ou un autre on décide de se payer peu en se disant on vendra notre service après et on sera les experts donc on valorisera à ce moment-là. Il y a des choix. Toutes les sociétés de services en logiciel libre sont pas... Alors certaines font appel au marché pour se développer en promettant d'être le leader européen ou mondial de telle ou telle solution. Mais en tout cas, une solution d'éditeur passe par des coûts de recherche et développement qui sont importants, qui sont impactés d'une manière ou d'une autre.
Comment ça se passe chez vous, chez Logilab ?
Alors déjà, juste un mot. Tout à l'heure, vous parliez du domaine d'expertise. Nous à Logilab, c'est vrai qu'on a un gros domaine d'expertise qui va être le langage Python, et donc toutes les solutions qui vont être faites autour du langage Python dans un certain nombre de domaines. Nous, on essaie de travailler avec des clients qui sont essentiellement, qui sont pour une bonne partie dans le monde du calcul scientifique, et donc on essaye pour eux d'apporter des solutions qui répondent à leurs besoins, et on le fait dans le cadre de logiciels libres. Après, en termes de... Vous parliez tout à l'heure de CMS et d'un certain nombre de notions qui existent. On travaille aussi avec des solutions de type CMS. Et effectivement, dans mon Python, il y en a trois qui sont fréquemment utilisées et qui sont assez connues. Et nous, ce qu'on essaye de faire, c'est lorsqu'on répond par exemple à un appel d'offres, c'est-à-dire qu'on essaye de promouvoir, on répond en utilisant une solution particulière, en se basant par exemple sur un CMS donné, nous on essaye en général, parce qu'on est impliqué dans ces communautés-là, de réinjecter une partie des développements qu'on a pu faire pour la réponse à l'appel d'offres, de le réinjecter dans la communauté, de manière à faire vivre un petit peu l'écosystème dont on parlait tout à l'heure.
D'accord. Mais, c'est quelque chose, injecter du code, expliquez-nous un petit peu comment ça fait vivre. Je veux dire par là.
Il y a plusieurs choses. En fait, donc nous, en fait, notre activité se découpe essentiellement en trois parties. Juste pour expliquer grosso modo, on a un tiers de notre activité qui consiste à faire de la formation autour de Python et des solutions liées à Python. Un tiers de notre activité qui va consister à fournir des services de l'expertise, du consulting auprès d'entreprises. Et un tiers de notre peut-être un peu moins d'un tiers qui va consister à faire du développement en logiciel libre qui répond à des besoins qu'on peut avoir en interne chez nous et qu'on met ensuite à disposition de tout le monde sur notre site. On est assez actif dans la communauté Python, et les logiciels qu'on peut mettre à disposition sur notre site, il y en a certains, alors je ne sais pas, on en met une quinzaine, une vingtaine, tous ne sont pas utilisés par tout le monde, mais il y en a deux ou trois qui commencent maintenant à être relativement connus, qui sont des logiciels libres, qui sont utilisés un petit peu partout dans le monde, et qui en fait nous apportent une notoriété et qu'on retrouve parfois dans les appels d'offres ou dans les demandes de formation. Des fois, les gens viennent nous voir explicitement parce qu'on a fait tel et tel logiciel qui est en logiciel libre, et donc en fait ça nous rapporte une publicité, c'est en fait une vitrine pour nous, et c'est indirectement, ça fait partie des rétributions qu'on a à participer au monde du logiciel libre.
J'entendais l'autre jour un financier américain qui disait qu'à l'heure actuelle, il n'est plus possible aux États-Unis de lancer une boîte si elle n'a pas l'étiquette open source, parce qu'en fait, c'est la façon la moins chère de créer une communauté très rapidement, en évitant les coûts marketing qui sont liés à l'activité d'éditeur traditionnel avec la conquête des marchés, la bataille avec les concurrents, etc. Est-ce que les choses se présentent de la même manière sur le marché français, monsieur ?
À 100%. Bon, à savoir que Aidecore est à l'origine un projet universitaire de New York, mais par contre, c'est vrai que avoir ou atteindre la notoriété qu'on a atteint en 12 ans d'activité a coûté des milliards au niveau marketing. C'est-à-dire, si vous connaissez le langage ADA, mais c'est forcément le logiciel GNAT. Et c'est un coût énorme. Quand vous pensez que nous, on a deux ou trois batailles, c'est non seulement la bataille de faire connaître notre logiciel, et notre société, mais aussi le langage ADA. Et en utilisant un modèle libre, nous avons pu rentrer dans les marchés qui ont été fermés vis-à-vis de l'ADA. Et ça a été pour nous un succès, mais à 100%.
Mais alors comment interpréter, par exemple, que des très très grands éditeurs, je pense à IBM en particulier, qui investit énormément dans des fondations telles qu'Eclipse ou Apache ou d'autres encore, l'OSDL, je crois. Finalement, je veux dire, l'argent vient de là, d'une certaine manière.
Tout à fait, mais n'oublions pas que je pense que derrière IBM et Eclipse, ils ont quand même la possibilité de diriger et de créer un marché entier. Les petites structures n'en ont peut-être pas. C'est-à-dire qu'en créant un environnement de développement, ils espèrent pouvoir et s'associer très prochement de cette IDE. Ils espèrent vraiment que le marché où pourrait être utilisé s'élargira à cause de l'effet IBM, si vous voulez. Et c'est clair qu'ils ont tout à gagner en soutenant...
Ce qu'IBM a gagné, c'est assez clair, mais qu'est-ce qu'ont les autres à gagner en participant au projet ou aux utilisateurs, aux gens qui adoptent? Par exemple, il y a au moins 3 ou 4 sociétés en France qui ont pris Eclipse. Oui, vous par exemple, qui ont pris Eclipse, qui l'ont adapté à leurs besoins pour en faire...
Écoutez, je pense qu'il y a... je pense que tout le monde, quand on rentre dans ce genre de projet, il y a un côté altruiste quand même. C'est le fait de vouloir promouvoir son expertise, c'est le fait de promouvoir son outil. Mais, par exemple, pour nous, il y a clairement un avantage que nos clients qui travaillent sur des projets qui doivent durer 15, 20, 25 ans ont la possibilité d'avoir non seulement une société derrière les outils qu'ils vont utiliser pour développer ces applications, qu'elles soient libres ou qu'elles soient propriétaires, mais toute une communauté qui risque de pouvoir apporter beaucoup plus de support et d'innovation dans le développement de cette solution.
Je voulais savoir, ça c'est peut-être plus une question pour vous, M. Boutet. Il semblerait, vu la taille des entreprises, vous avez un rayonnement, je dirais... alors justement, c'est une question. Est-ce qu'il est vraiment local ou est-ce qu'il peut s'étendre à travers les problématiques? En général, je vois par exemple, il y avait une localisation sur votre site qui montrait les sociétés qui sont à Rennes, à Biarritz, à Lille, à Montauban, enfin, pour ne citer que quelques-unes. A priori, on a tendance à penser qu'elles rayonnent dans cette région-là ou pas tellement au-delà.
Sur les sociétés de libre entreprise, certaines... Alors, les activités sont assez... Il y a des SS2L classiques. Il y a des SS2L qui sont spécialisés avec des rôles d'éditeur, dont Entrouvert, dont également un Nerid qui est spécialisé sur un ERP qui s'appelle OffBiz NeoGIA. Donc, en fait, ces sociétés-là, même les sociétés locales pures SS2L, peuvent avoir historiquement des clients parisiens ou des clients dans d'autres régions. Donc, le rayonnement, il est plutôt national, voire légèrement international, parce que de manière anecdotique, nous, Entrouvert, on a une activité en Belgique et on a une société qui est au Canada. Donc, on a un rayonnement international, entre guillemets. Et sur les sociétés, certaines ont un rayonnement purement local, d'autres nationales, parce qu'à un moment ou à un autre, il y a eu des développeurs qui ont souhaité s'installer en province et qui ont gardé contact ou des clients parisiens ou des clients un peu partout en France. Donc, avec l'Internet et le développement des nouvelles technologies, ça permet d'avoir des clients un petit peu partout et un rayonnement un peu diffus.
D'accord. Il y a un aspect aussi qui est très net, c'est celui des financements publics, je pense aux projets européens, par exemple, dans lesquels pas mal d'argent est investi. Est-ce que c'est quelque chose qui a de l'importance? J'ai vu que le GILAB faisait partie de...
Oui, nous, on travaille actuellement là, sur un projet européen, et ça nous est arrivé d'en travailler sur 3 ou 4 autres dans le passé. C'est partie des choses qui participent à financer la société. Par contre, en général, les projets européens sur lesquels on travaille, c'est aussi des projets liés au logiciel libre. C'est-à-dire qu'en particulier, en ce moment, on travaille sur un projet européen qui s'appelle PyPy, donc toujours lié au langage Python, et qui, en fait, est un partenariat, finalement, de 3 ou 4 entreprises, de 2 universités et quelques indépendants, et tout ça à travers l'Europe, donc il y a des Suédois, des Suisses, des Allemands, des Italiens. et des gens qui viennent se greffer autour de ce projet, qui ne font pas directement partie, du projet lui-même en termes de financement, mais c'est des gens qui viennent un peu après de n'importe quel pays, y compris des États-Unis, y compris de la Corée. Donc ça, c'était pour la partie internationalisation. Mais au niveau financement, effectivement, c'est partie des choses qui peuvent rentrer en compte dans le financement d'un projet, d'une société.
D'accord. Est-ce qu'il y a des liens, par exemple, il y a des secteurs géographiques qui sont en train de prendre une importance prépondérante, enfin prépondérante peut-être pas, mais en tout cas plus grande qu'auparavant, comme l'Amérique latine, par exemple, ou la Chine.
À l'international, vous voulez dire?
Oui, à l'international. Avec une forte demande d'expertise, là aussi.
Au niveau international, je ne sais pas si... Nous, on ne travaille pas, on n'a pas uniquement des pays dans lesquels on voit des choses émerger de manière significative. Il y a toujours les mêmes pays qu'on voit tout le temps, la Chine, l'Inde et des choses comme ça, mais sinon, des niches particulières, je ne sais pas.
Justement, par exemple, avec la Chine et l'Inde que vous voyez tout le temps, ça se passe comment? C'est-à-dire,
Nous, on ne travaille pas directement avec eux. Par contre, effectivement, on voit un certain nombre de projets ou de projets qui commencent à émerger, ou des sociétés qui vont envoyer des gens en Inde. On commence à voir un certain nombre de projets qui émergent de ces pays-là, mais nous, on ne travaille pas directement avec eux. Enfin, nous, Logilab, je parle.
D'accord. Il y a pas mal de personnes qui pensent que, quand on voit par exemple l'évolution de gros, très grosses structures comme Apache, moins connues, mais ObjectWeb en France, par exemple, enfin, en Europe, qui tend à internationaliser un petit peu, est-ce que le futur de l'open source en termes de développement et puis de création de valeur, je dirais, sur la base, ne passe pas par justement de grands projets un petit peu transversaux comme cela? Je voulais votre avis à tous d'ailleurs sur la question. Commençons par vous peut-être.
Je pense qu'il y a la création de valeur sur tous les projets open source. Après, c'est les modèles pour créer de la valeur pour l'entreprise sont, comme on l'a vu, très très différents. Effectivement, un modèle qui est intéressant qu'on voit émerger aujourd'hui, c'est le modèle du service applicatif. Ou particulièrement au niveau des couches métiers, on a des sociétés qui dérivent un petit peu du modèle de l'éditeur traditionnel et qui vont plus vendre du service, mais en ligne cette fois-ci, sur un logiciel dont ils vont maîtriser, mais qui est un logiciel libre, dont ils vont maîtriser l'évolution à travers une marque, par exemple, ou un site web, etc. Sachant que ce logiciel, bien sûr, peut être ensuite intégré comme logiciel libre dans des suites bureautiques traditionnelles, dans des distributions GNU Linux, sans condition. Donc ça, c'est le type de valeur ajoutée qu'on voit apparaître depuis quelques années, qui n'existait pas il y a peut-être 5-6 ans. Donc des évolutions intéressantes. Faut-il absolument avoir des projets transversaux pour créer de la valeur ajoutée? Je ne pense pas. On peut même se demander si ce n'est pas l'inverse, dans le sens où des projets matures comme Apache, c'est vrai, génèrent de manière indirecte beaucoup de valeur ajoutée, parce que comment ne pas penser qu'un projet qui est utilisé par 70% des serveurs dans le monde ne génère pas de valeur ajoutée, mais en même temps, sur le projet lui-même, c'est-à-dire sur des modifications à apporter au code source, on ne va pas forcément avoir énormément de services vendus, parce que la plupart des gens vont utiliser le logiciel tel quel, les versions standards, sans qu'il y ait un besoin d'expertise en tant que tel, sachant que la documentation est excellente, le produit est déjà quasiment une commodité, donc il va être utilisé tel quel, déjà packagé dans des distributions.
Ça, c'est pour le serveur web, mais il y a beaucoup d'autres choses dans la
plateforme. Oui, mais c'est un phénomène qu'on peut retrouver pour beaucoup de logiciels, en fait. C'est-à-dire qu'il y a différents stades, peut-être dans l'utilisation d'un logiciel libre, qui est... Et peut-être dans les premières étapes, le besoin d'expertise va se faire plus sentir parce que les mécanismes de documentation qui relèvent aussi de la stratégie d'accumulation communautaire, c'est-à-dire que le fait qu'on ait un travail collaboratif permet au bout d'un certain nombre d'années d'améliorer les documentations techniques ou non techniques utilisateurs. Hein, les deux phénomènes existent. Et ce qui veut dire qu'au bout d'un certain temps, le logiciel devenant une commodité, peut-être va générer peut-être moins de valeur ajoutée, même s'il est transversal. Même s'il est utilisé comme base, comme fondation pour un logiciel supérieur qui va l'utiliser comme composant.
Je je comprends. Est-ce qu'il existe des, comment dire, enfin, plus exactement, comment se comporte la, la communauté investisseuse par rapport au logiciel libre? Je veux dire, en France, traditionnellement, c'est les banques, mais il y a d'autres investisseurs que ça maintenant. Est-ce que c'est un paramètre, est-ce que le libre est un paramètre qu'elles ont pris en compte, dont elles ont saisi la spécificité?
Ce qui est intéressant d'observer, c'est que dans l'histoire des entreprises qui se sont spécialisées dans le logiciel libre, il n'y a pas tant que ça d'investissement pour des acteurs de type SS2L, ce service traditionnel. Et donc, ce n'est pas forcément un critère, le fait d'une société spécialisée dans le logiciel libre, qui va attirer spécialement des investisseurs. Je dirais même que les investisseurs vont avoir tendance à être plutôt effrayés par le modèle du service. Donc, c'est plutôt l'inverse. Mais de l'autre côté, effectivement, on a ce genre de citation je ne sais pas qui a dit ça aux États-Unis, mais qu'aujourd'hui, je n'investirais pas si jamais il n'y avait pas de l'open source dans le business plan. Alors, il faut traduire open source par logiciel libre, mais grosso modo, ça veut dire quoi? Ça veut dire effectivement qu'en termes de coûts, en termes de capacité, et j'ai noté dans les interventions précédentes, la capacité d'un point de vue marketing qu'il y a dans le logiciel libre à créer du buzz pour l'entreprise en profitant de cet effet réseau un petit peu. Ça, c'est intéressant aussi pour une start-up. Hein. Bon, entre cet effet marketing-là et l'effet économie globale en utilisant des composants déjà développés, effectivement, pour un investisseur, il y a un vrai intérêt à sélectionner ses dossiers en fonction de ce critère-là. Donc, ce n'est pas vraiment sur des purs players que peut-être l'investissement va se porter, mais c'est certainement sur les entreprises qui ont un caractère innovant, mais qui vont utiliser le logiciel libre comme composant de base de leur modèle économique. Sachant que le modèle économique, ensuite, peut être très différent, peut être même loin du logiciel. Ça peut être un modèle économique qui n'est pas du tout centré sur le logiciel, un modèle économique, par exemple, centré sur le service à la personne, mais qui, dans sa manière de fonctionner en tant qu'entreprise, utilise le logiciel libre, lui.
Alors, il y a une autre partie de ce débat qui porte sur la coopération, alors d'une manière liée, bien sûr, au modèle économique, mais je voulais savoir... Alors, ça, c'est évidemment une question pour vous. Comment ça se passe, pratiquement, la coopération entre les entreprises du réseau? Qu'est-ce que vous partagez, déjà? Et puis, de quelle manière?
Alors, Libre Entreprise, au départ, était un réseau qui a été créé pour partager du savoir, de la connaissance et partager un modèle social et sociétal au sein de nos entreprises. Donc, on partage un maximum d'informations. On a des listes de diffusion qui sont ouvertes à tous les membres de nos entreprises. On est parfois en but avec des NDA que certains sont obligés de signer. Mais sinon, on essaie d'être le plus ouvert possible, de partager un maximum d'informations, de connaissances. On partage des compétences, parce que sur certaines thématiques, on a besoin de compétences de membres de telle ou telle société. Et ça se passe plutôt bien au sein de toutes les sociétés. On partage... Après, on mutualise un certain nombre de choses, un certain nombre de... des serveurs, entre autres. On mutualise, on est des petites sociétés, mais en fait, on partage aussi certains appels d'offres, on partage une veille technologique. On essaie au maximum, mais on est vraiment dans une optique de modèle social, de partager au maximum la connaissance, les compétences, et de se dire que les salariés doivent être impliqués dans la vie de l'entreprise. C'est vraiment le modèle de base de Libre Entreprise.
Moi, j'ai peut-être une question. En quoi le modèle collaboratif qui est le modèle visible pour le logiciel libre a-t-elle influencé des modèles de partage à d'autres niveaux qui ne sont pas des niveaux logiciels?
Je crois que dans l'esprit, alors je ne fais pas partie des créateurs du réseau, mais dans l'esprit des créateurs du réseau, c'était ça. C'était de créer un réseau d'entreprises qui essaie de fonctionner à la manière du logiciel libre, à une manière la plus collaborative et la plus ouverte possible. Le modèle de base, c'était le contrat social Debian.
Ok. Et jusqu'où ça va? C'est-à-dire que où s'arrête ce modèle collaboratif? C'est intéressant de voir jusqu'où vous pouvez aller. Le type de collaboration ultime qui ne serait pas dans l'entreprise traditionnelle que vous avez typiquement? J'ai un exemple à citer.
Mais il y a les op partners. Je ne sais pas si.
Non, on n'est pas
op. C'est un exemple d'où la collaboration peut aller. Mais bon, je ne veux pas.
Oui, ça peut être un exemple. Là, je n'ai pas d'illustration en particulier en tête, mais vraiment, ça peut aller assez loin.
Ouais.
Vous pouvez développer un peu sur The
Quantum. C'est-à-dire que donc il y a une libre entreprise, c'est un réseau de sociétés qui sont spécialisées dans la technologie ZOP, et ça va au-delà du côté technique, ça va dans le commercial, ça va dans le développement de business model, c'est-à-dire que ils ont créé une bête qui est représentée par plusieurs petites sociétés. Et donc, tous avec le même but de promouvoir la technologie ZOP et les solutions qu'ils peuvent apporter, que ce soit management, que ce soit marketing, que ce soit commercial. Et c'est plutôt...
Et ça marche ?
Je ne sais pas, mais j'aime bien c'est l'idée de collectivité un peu. Et j'aime bien cette idée, personnellement.
Oui, moi aussi. Mais...
Est-ce que ça marche maintenant ? Ben, c'est vrai qu'au niveau technique, on voit que ça marche très très bien. On voit qu'il y a des grandes sociétés qui habitent très bien main en main avec des petites sociétés. Vous avez qu'à regarder la communauté GCC, la communauté Eclipse, et il y a beaucoup de projets européens dans le logiciel libre où vous avez des grands partenaires et des plus petites structures. Maintenant, est-ce que la collectivité marche ? C'est un peu plus... Il faudra peut-être contacter Zo.
Oui, il faudra leur demander. Vous avez parlé des projets européens ou même au niveau national. Il y a beaucoup de structures qui sont nées un petit peu dans cet environnement-là. Est-ce que ça va rester, ça va rester longtemps ? Je ne sais pas à qui poser la question, en fait. À vous. Une poire pour la soif importante, les contrats de l'administration, ou est-ce que, parce que pour moi, pour tout vous dire, ça fait très très longtemps que j'essaye de trouver une entreprise privée qui aurait fait le pari open source complet, de A à Z. Alors j'ai trouvé des administrations comme ça, j'ai trouvé des collectivités locales, mais j'ai pas encore trouvé d'entreprise privée à ce pari-là.
Alors, nous, chez Entrouvert, notre secteur d'activité, effectivement, on se positionne plus dans le secteur public ou parapublic. Donc, c'est plus qu'une poire pour la soif. C'est notre raison de. Enfin, pour l'instant, c'est un peu notre raison d'exister. En revanche, sur ce qui est des financements ou des projets européens pour lesquels on peut être financé, on est actuellement sur des marchés de niche parce que l'activité Liberty Alliance est encore une activité centre. Donc, forcément, ça intéresse des partenaires. Qui soit acteur du logiciel libre ou du monde propriétaire, de pouvoir intégrer un spécialiste français ou européen dans le domaine parce qu'on est les seuls, en fait. Et ça restera, à mon avis, ce sera une poire pour la soif parce qu'à un moment ou à un autre, ça va décliner. C'est ce type de financement européen sur des projets de R&D.
Mais vos collègues qui font partie du réseau Libre Entreprise, bon, je vois, vu leur... leur localisation en province, je veux dire, ils ne sont pas obligatoirement tous spécialistes de la...
Du tout. Alors là, pour ce qui est de libre entreprise, en revanche, la part des sociétés sont plutôt positionnées en termes de services aux entreprises. La collectivité étant une poire pour la soif.
Ah d'accord.
Voilà. Notamment Nereid, qui est une société spécialisée dans un ERP. Eux, leur fonds de commerce, ce sont les entreprises pas les collectivités.
Et à votre naissance, est-ce que c'est, en particulier en province, d'ailleurs pourquoi, est-ce que le phénomène libre passe dans les mœurs, dans les entreprises ? C'est-à-dire, est-ce que, en relation avec ce que je vous disais tout à l'heure, où par moment, on a du mal à vendre le service dans la mesure où le logiciel est supposé être gratuit ?
On arrive à vendre le service par des adaptations où il peut y avoir distribution après. Donc ça, le libre pousse petit à petit. Mais c'est vrai que c'est un phénomène qui est en train petit à petit de monter. On n'est pas au niveau d'il y a 3-4 ans où c'est extrêmement dur. En revanche, petit à petit, les grands acteurs se positionnent en tant qu'acteurs d'open source. Donc il y a aussi un effet boule de neige. Vous êtes le seul marchand de chaussures dans votre rue. Vous avez peu de chances d'être souvent visité. Il y a beaucoup de marchands de chaussures dans une rue. Les gens viennent pour acheter des chaussures. Donc là, il y a plus d'acteurs. Et petit à petit, les grands acteurs sont certes une concurrence pour les petites SS2L que nous sommes. Il y a ces marchés de niche qu'on peut avoir, donc, qui ont été évoqués tout à l'heure. Mais le fait qu'il y ait un effet d'entraînement où tout le monde parle du libre permet aussi de vulgariser et de faire rentrer le libre au niveau des entreprises.
Mais on l'entendait tout à l'heure à la table ronde précédente avec le monsieur de Steria. Bon, c'est clair, les grands débarquent, si j'ose dire. Donc comment gérer ça du point de vue des, alors soit des éditeurs, soit des gens qui ont plus le profil éditeur, soit plus le profil de société de service du libre. On a déjà eu un embryon de réponse à la table ronde précédente, mais...
On pourrait poser la question à Dacor. Est-ce que Dacor a peur, par exemple, des grands qui se mettent au libre sur leur marché à eux? Certainement que non. J'imagine, mais à vous de répondre.
Non. Pour être honnête, non, parce que...
Ce serait intéressant de voir pourquoi vous n'avez pas peur, justement.
Il faut savoir que Gnat, c'est une belle bête. C'est 12 ans de développement, et encore plus de 12 ans de développement. Et c'est quand même un marché très niche. Et je pense qu'il y a les solutions propriétaires qui existent plaît très bien à leur proprio. Ça, c'est tout à fait possible qu'une société pourra prendre une version de Gnat, et d'ailleurs les sociétés le font, hein, une version de Gnat, et les distribuer avec leur distribution Linux. Je pense.
C'est arrivé fréquemment.
Ah oui, non, mais ça arrive avec certains éditeurs.
D'accord. Chapeau rouge.
Non, mais il y a, c'est vrai qu'il y a des versions de Gnat qui ont été distribuées avec SUSE et avec Red Hat, qui n'ont pas les garanties de qualité et techniques que nous assurons derrière. C'est-à-dire que nous ne les supportons pas.
Ce que vous voulez dire, c'est que ce n'est pas le même service. C'est-à-dire que fait la personne qui a acheté du chapeau rouge avec Gnat quand il veut du service?
Il va avoir un chapeau rouge.
Vous pensez que le service, dans ce cas-là, n'est pas le même que le vôtre, en
fait. Non, nous, notre métier, c'est on a rassemblé quand même parmi les 10 experts ADA au monde, il y en a peut-être 7 ou 8 qui travaillent pour nous. On a une cinquantaine de personnes qui travaillent que sur le logiciel Gnat et que sur le langage ADA. Donc, il n'y a aucune société, y compris IBM, qui sont ou Rational, qui sont une concurrent. Il n'y a aucune boîte au monde qui peut offrir cette expertise.
Donc, en fait, vous n'avez pas le monopole sur le tour, parce que c'est un logiciel libre, mais vous avez le monopole des experts.
Exactement.
C'est la manière de contrôler ce marché de niche.
Si vous voulez, oui.
D'accord.
Si vous voulez.
D'accord, mais alors justement, à partir du moment où, j'imagine, les experts ont eu leur coût, enfin, quel que soit le terme d'ailleurs.
Oui, tout à fait. Oui.
Le fait de voir, par exemple, des distributions Gnat peuplées des serveurs Linux sans votre aval, si j'ose dire, est-ce que c'est pas vécu comme une sorte de manque à gagner ou...
Absolument pas. Absolument non. Pas pour nous, parce que, en tout cas, ce qui est super pour nous, c'est qu'ils continuent à utiliser non Gnat, ce qui est plutôt sympa. Nous, on est très... Personnellement, mon métier, c'est et d'associer et de core avec Gnat, et d'associer Gnat avec ADA. Donc, parce que c'est vraiment la marque la plus puissante dont nous disposons au jour d'aujourd'hui. Donc pour nous, c'est vraiment énorme que si vous connaissez, comme je disais tout à l'heure, si vous connaissez le langage ADA, vous connaissez forcément le logiciel Gnat. Et nous encourageons à tous nos...
C'est dans le langage ADA.
Voilà.
Non, mais je pense que c'est une réaction assez classique, en fait. On va avoir des utilisateurs, ça va être de Gnat, qui n'ont pas forcément besoin de support, qui vont l'utiliser quand c'est mis en composant. Mais cela, de toute façon, ne serait jamais tourné vers une solution propriétaire ou payante dès le départ.
Ouais, ouais.
Donc, c'est plus une facilité pour eux d'utiliser à un moment donné le compilateur.
Exactement.
Ça peut les amener plus tard,
oui.
Le jour où ils ont besoin de support, à venir vous voir.
Exactement. Pour nous, ça a été vraiment... vous imaginez avoir un marché ou un représentant commercial qui travaille partout dans le monde et partout comme Internet, qui travaille 24 sur 7 et est toujours là pour promouvoir votre logiciel. C'est un peu ce qu'on a avec le logiciel libre. Ce qui est très important aussi, c'est que, comme vous dites, dans notre marché quand même, où les systèmes en moyen peuvent aller des dizaines de millions jusqu'à des centaines et des centaines de millions d'euros. Un arrêt de 2 semaines sur un projet parce qu'il y a un certain bug qui n'est pas fixé dans la version non supportée peut coûter des fortunes. Mmh. Et justement, c'est à ce moment-là où les gens
se tournent vers vous.
Se tournent vers nous. Et je vous le dis très clairement, même avec un modèle libre, nous sommes loin les moins chers dans les solutions ADA.
Ça, c'est intéressant. Donc, ça veut dire quelque part que le chapeau rouge joue un peu le rôle de son représentant de commerce, mais pour vous, quelque part.
Utilisation.
Pas de commentaire.
Est-ce que vous avez aussi des rapports avec le chapeau rouge ou...
Non, nous, on n'a pas de rapport avec ces gens-là. On n'a pas spécialement de crainte et de contact avec des sociétés plus grosses ou des gens qui proposent ce genre de solution. Nous, notre fonds de commerce, ça va être vraiment l'expertise autour du langage Python et de ce qu'il est possible de faire avec dans certains cas d'utilisation bien précis. Et voilà, notre expertise se situe à ce niveau-là. Et nous, on n'a pas trop de problèmes non plus de concurrence. C'est-à-dire qu'on a une expertise qui est assez reconnue, on participe à la communauté. Enfin, c'est vraiment l'aspect participation à la communauté qui fait référence et qui nous sert de vitrine. Et puis après, un certain nombre de collaborations qu'on a pu faire, qui ont été menées avec succès, qui nous permettent après d'avoir des références et de pouvoir...
Quand vous dites participer à la communauté, ça veut dire pratiquement quoi ?
Participer à la communauté Python, ça veut dire que je pense qu'un tiers de notre temps qu'on passe, on le fait pour des logiciels libres, on contribue on participe au développement de Python au travers du projet européen auquel on participe, PyPy, on rétribue les bugs qu'on a pu trouver, les correctifs qu'on a pu faire sur le langage lui-même, on les incorpore au langage, les logiciels auxquels on participe, il y a un certain nombre de gens qui participent à ces logiciels et ça peut créer des liens éventuellement avec des choses qu'ils peuvent faire et puis voilà, un certain nombre de logiciels qu'on utilise ou de la communauté Zoop, alors on fait pas partie de Zoop Partners dont vous citiez tout à l'heure, mais on a aussi des gens chez nous qui travaillent beaucoup avec ces outils-là et qui ont intégré la communauté, ça veut dire qu'ils font partie des développeurs officiels, ça veut dire qu'ils ont accès aux sources, ils peuvent intégrer des patchs, voilà. Donc c'est ça, participer, c'est-à-dire qu'on passe du temps, de notre argent et à participer à cette communauté.
Alors, bon, c'est une question un peu tordue, mais est-ce que vous avez quantifié ça ? C'est-à-dire, je veux dire, si vous ne faisiez pas ça, vous ne seriez pas ce que vous êtes, d'une certaine manière.
Donc, non, et c'est aussi parce qu'on faisait ça qu'on est arrivé à créer Société Logiale, enfin, c'est aussi dans l'autre sens. Donc, c'est aussi parce qu'à la base, on voulait faire du logiciel libre, on aimait Python, on aimait un certain nombre de choses, qu'on a voulu faire une société basée sur le logiciel libre, utiliser des solutions logiciels libres, proposer des solutions autour de ça. Donc, c'est aussi dans l'autre sens que ça fonctionne.
La différence peut-être qui est intéressante d'accord, c'est que de votre côté, vous n'avez pas les 8 plus grands experts du monde de Python dans votre entreprise.
Donc, on travaille chez Google en ce moment tous, mais...
on a vraiment une différence quand même entre le modèle de la société qui pose la plus grosse expertise, qui est un modèle quasi-éditeur. Là, on glisse un petit peu. Déjà, c'est moins un modèle d'éditeur. On est plus dans le service.
Oui, on est plus dans le service.
Et vous avez quand même une expertise pour vous différencier.
On a une expertise qui est revenue et...
Pour vous différencier les autres. Voilà. Quelque part, vous vendez du savoir-faire, en quelque sorte. Et quelque part, la contribution à l'écosystème, la contribution en code source, la contribution à l'aspect collaboratif des logiciels que vous utilisez, c'est une preuve pour vos clients de savoir-faire, c'est un petit peu ça.
Ça participe à ça pour les clients et puis pour nous aussi, c'est notre façon de voir les choses et on a envie de participer à tout ça, donc on le fait aussi par idéologie entre guillemets.
D'accord.
Je pense qu'il y a une chose importante à dire, et c'est justement la participation de la communauté et de fait des clients dans le développement des produits. C'est une chose, c'est un avantage marketing pour nous très 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 important que les clients puissent dire voilà, nous on va être supporté sur telle et telle plateforme, Nous, on aimerait bien voir telle ou telle feature dans votre debugger. C'est vraiment un coût marketing très important. Et l'autre côté, c'est que quand on... Parce que tous nos sources sont sur l'arbre FSF, que vous avez la possibilité d'avoir la communauté qui participe également à débugger votre technologie et à suggérer des enhancements. C'est un côté vraiment, au niveau compétitivité, c'est très, très important.
Bien, bah, je pense qu'on va peut-être pouvoir passer aux questions de la salle, si vous en avez.
Monsieur. Je voudrais apporter une précision, puisqu'on parle de financement. En ce qui concerne les projets de recherche qui peuvent être aidés par la communauté, que ce soit par l'Europe, que ce soit dans le cas de projets ARD en France, que ce soit dans le cas de projets portés par des pôles de compétitivité, le financement est au mieux de 50%. Un petit peu plus quand on est une PME, ce qui est notre cas, une toute petite PME, mais ça ne va pas au-delà. Donc l'entreprise qui s'investit dans ce type de projet, elle mouille sa chemise aussi. Hein. C'est pas, on travaille pas, hein, on ne développe pas ses rêves payés par la communauté, que ce soit bien clair. Le deuxième aspect sur le financement, vous parliez de financement de français dans le domaine du libre. Alors je mets d'emblée de côté les banques, ne parlons pas de choses qui fâchent.